RMC.
Nous sommes de modestes provinciaux qui seraient très satisfaits d'être champions d'automne.
C'est dur à dire peut-être pour ma famille, mais c'est peut-être le plus beau jour de ma vie.
On s'est tapé dans la main en visio dans la nuit.
After Lyon,
Gilbert Bribois.
Bonjour à tous, le podcast After Lyon est de retour. Messieurs, dames, vous le savez, désormais nous enregistrons ces podcasts en milieu de semaine pour coller le plus possible à l'actualité. L'actualité à l'OL, eh bien sûr, elle est double. Elle est double parce qu'on va parler aujourd'hui à la fois de la reprise et donc faire le point sur la situation de John Textor et de l'arrivée de Laurent Blanc. C'est un petit point là, après deux matchs, une défaite, une victoire, tout ça avec coach Courbis qui est avec moi. Salut Roland.
Salut les amis et salut à tous.
Et évidemment avec Edouard G en direct de Lyon. Salut Edouard.
Salut Gilbert, salut coach, bonjour
salut
à tous.
Salut Doudou.
Alors, salut. Essayons d'abord d'être informatif sur John Textor. Il y a pas mal d'infos là en ce début de semaine qui sont sorties. Qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui sur le, on va dire, allez, si tu devais déterminer un degré de confiance au club sur la faisabilité de l'histoire, tu le situerais sur une échelle de 1 à 10 à quel niveau?
C'est difficile à répondre parce que le dossier est vraiment très 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 complexe, en sachant qu'il y a un nouveau mot qui est arrivé hier dans le communiqué envoyé à 8h03. On savait depuis la veille que ce communiqué allait arriver dès Potrominet. C'est le mot résiliation au bénéfice des vendeurs, et, sans préjudice pour les vendeurs. Donc oui. Là, c'est la première fois qu'on envisage. Non, c'est pas vraiment positif, mais en fait, il y a des. C'est un communiqué à tiroir. Voilà, donc il y a une chose qui est claire, c'est qu'au niveau des dettes, parce qu'en fait, pour racheter ce club, il y a deux choses. Il y a les 330 millions de dettes qui correspondent à l'endettement pour le stade, et puis la future Arena. Ça, il y avait une banque qui bloquait, en l'occurrence, la seule banque américaine des 13 banques, les autres c'est des françaises, qui ne donnaient pas suite à John Textor. Parce que dans un cas comme ça, on peut garder la dette ou se faire rembourser. Il y en avait pour 14 millions. Donc quand la banque américaine du
restez concentré, si vous nous écoutez, restez concentré.
a dit non, là ça a un petit peu fait fléchir les autres. Du coup, le premier closing a été annulé à cause de ça. Donc ça, c'est réglé. Après, il y a l'apport de 468 millions d'euros. Et là, John Textor dans s'entourer d'un pacte d'actionnaires. Et imaginez-vous qu'on est fin octobre, 4 mois après, eh bien, il n'a toujours pas finalisé de manière concrète avec ce tour de table, justement, des choses écrites. Et en fait, le club veut des valorisations écrites pour être rassuré à ce niveau-là. En fait, le contrat de mariage du pacte d'actionnaires n'est encore pas fait. Alors, il y a deux lectures. Vas-y. Soit ça cache le fait qu'il n'a pas d'argent, soit c'est la conséquence. On me décrit un homme un petit peu grand enfant à 57 ans, héritier de la famille Dupont de Nemours.
Pas un énorme bosseur, quoi. C'est...
Voilà. Qui privilégie peut-être
l'enfant gâté, quoi, qui a pris ses rêves pour des réalités.
Voilà, et il se rend peut-être pas compte qu'il y a beaucoup de travail pour un deal à 800 millions à faire de façon internationale, et qu'il faut peut-être apporter des preuves, et qu'il faut peut-être à un moment donné peut-être se mettre sur le bureau et se concentrer là-dessus plutôt que d'aller faire une conférence de presse. Voilà, une conférence de presse, pardon. Il faudrait faire une conférence de presse plutôt que faire un golf. Voyez. Voilà, parce que par exemple sur le week-end, il y a un moment donné où il a peut-être préféré faire un golf.
Il avait golf avec Laurent Blanc. Voilà.
Alors je sais pas.
C'est pour le team building interne, c'est important.
Peut-être. Alors voilà, donc c'est ça la difficulté. Donc que cache en fait ce côté-là, quoi, en fait. Est-ce que il a pas l'argent, ou est-ce que c'est par phobie, on va dire administrative ou autre. Alors du côté de l'OL, on veut croire quand même à ça. Qu'il y a ce côté phobie un petit peu administrative, donc que ça va se faire. Du coup, il y a des points d'étape tout au long de la période, et notamment là, au milieu de semaine, il faut qu'il apporte les garanties qu'il a bien l'accord avec Ares Management. Alors, donc c'est un petit peu comme si c'était un gamin qui doit faire des devoirs, on lui dit bon bah voilà, pour apprendre ta leçon, je te fais faire demain matin On fait une interro pour que demain matin tu saches ta leçon, quoi, en fait.
Bon, alors,
pour
vérifier évidemment que 90% des podcasteurs qui nous écoutent, et Roland et moi dedans, on n'est pas des grands spécialistes de ce genre de montage financier qu'Edouard suit lui de très très près. Mais enfin, Roland, t'as quand même.
Mais c'est complexe, c'est pour ça que c'est complexe.
T'as quand même un pif qui t'a guidé dans le monde du football depuis 50 ans.
Mais c'est-à-dire que.
Donc qu'est-ce qu'il te dit?
Et il me dit tout simplement, et évidemment avec la traditionnelle phrase « je souhaite me tromper pour nos amis lyonnais ». Mais j'ai regardé attentivement, et là c'est vrai que c'est sur le plan allez, flair ou instinct. Et si par exemple je me trompe, ben on aura l'occasion d'en reparler dans un autre podcast. Là j'ai l'impression de voir un gars qui a grandi très vite, qui, pour moi, fait prendre un petit peu ses rêves pour des réalités. Et j'ai bien peur pour les Lyonnais qu'il soit allé trop vite. Pas parce qu'il n'a pas l'argent, parce qu'il a pensé avoir certainement cet argent-là. Et malheureusement, ça n'a pas été aussi facile que ce qu'il a pu le penser. Et aujourd'hui, je ne serais pas étonné d'une marche arrière. Est-ce que Jean-Michel Aulas a prévu cette possibilité? Le contraire m'étonnerait. Donc, je crois qu'on va attendre tranquillement. Moi, j'ai aucune connaissance de ce qui peut se passer dans ce dossier qui, en plus, est compliqué. Même s'il n'était pas compliqué, j'aurais eu du mal à suivre. Quand j'entends parler de sommes qui avoisinent les 500 millions d'euros.
Qui les dépassent même là, l'argent.
Donc, non, je pense que malheureusement, il a sprinté, j'ai l'impression, avant de savoir marcher.
Alors, juste, il y a quand même. Alors, parce que, rappelez-vous, on était pour notre tournée du mois de juin, dans le Pré, le jour même à Lyon. À Sainte-Foy-les-Lyon le jour où de l'annonce, moi je pense quand même que Jean-Michel Aulas, il était arrivé quand même assez triomphal avec John Textor, Edouard, on se rappelle, le 21 juin dernier.
Oui,
ils sont peut-être quand même, peut-être un peu précipités quand même, enfin c'est l'impression que ça donne.
Alors, il y a une donnée, c'est que Jean-Michel Aulas, dans le dossier, est totalement loyal avec John Textor. Par exemple, pour le cas...
Ah mais ça, on ne met pas en doute.
Ouais, mais par exemple, pour le cas de Laurent Blanc, il a attendu... ça je peux vous le dire, je connais tous les détails de la signature. Il a attendu le feu vert de John Textor, de l'avoir prévenu avec le décalage horaire dans la nuit de samedi à dimanche, le lendemain de Lyon-Toulouse, pour vraiment donner suite à tout l'entourage de Laurent Blanc, que ce soit agent ou avocat. Donc il y a une énorme loyauté. Et après la question, c'est quelque part, ni Jean-Michel Aulas ni John Textor, c'est la banque Reine au milieu, cette banque britannique hyper connue, qui a fait le deal de Chelsea quand même, et qui là va présenter à l'OL des dossiers, notamment celui de Textor, et finalement on se rend compte qu'il y a des difficultés et que le dossier n'était pas assez fourni.
Aussi en l'occurrence.
Voilà. Bon. Et donc c'est peut-être pour ça, à un moment donné, quand Jean-Michel Aulas, la banque Reine qui lui dit tiens, on a trouvé le dossier, bah il peut se dire parfait, on a l'homme qui va bien avec l'argent qui va bien.
Bon, à suivre, rappelons que le 31 décembre est la deadline ultime, évidemment.
À suivre avec curiosité.
Alors, ça peut aller très vite dans la semaine, hein. Ça peut aller très vite dans la semaine et la date limite, c'est le 17 novembre.
Ça peut aller très vite dans les deux sens. À suivre avec curiosité et malheureusement, un peu, pour ne pas dire beaucoup, d'inquiétude.
Bon, voilà. Espérons pour l'OL qu'ils ne tiennent pas là leur Jack Cashcar.
Ben, on l'espère.
Allez, on passe à Laurent Blanc. Bon, coach, deux matchs, une défaite, une victoire. Comment tu sens l'histoire là? Est-ce que tu as l'impression que ça commence à prendre, qu'il se passe quelque chose, tu vois, qu'il y a une dynamique qui s'installe avec la victoire à Montpellier, le lien à la casette blanc qui semble déjà, fonctionner? Quel est ton ressenti général avant qu'Edouard nous dise comment lui voit les choses, lui qui est au plus près du club?
J'ai l'impression, et ça se voit gros comme une maison, que je ne dirais pas Laurent Blanc, le duo Laurent Blanc-Passy, puisque Passy doit avoir évidemment son mot à dire.
À chaque fois qu'on parle de Laurent Blanc, on parle toujours d'un duo à chaque fois. T'as remarqué?
Ben oui, je pense que
Gassé,
c'est
très important.
C'est tout à fait logique. Et dans l'étude notamment des qualités et des défauts sur le plan individuel de l'effectif de Lyon, que je trouve, je suis désolé d'avoir entendu dans certains débats, et pas seulement chez nous, que l'effectif de Lyon ne pouvait pas permettre à cette équipe-là et à ce club-là de terminer dans les trois premiers excusez-moi, avec en plus 100 Coupes d'Europe le mardi, le mercredi et le jeudi, je pense que ça serait anormal que Lyon ne termine pas dans les trois premiers. Et compte tenu de tous les matchs qui restent, la chose est encore possible.
Donc ça veut dire que je t'arrête là, Roland, ça veut dire que tu les vois avec un effectif meilleur, il faut enlever Marseille, Monaco, Paris par exemple.
Ah mais je les vois dans les trois équipes qui vont se battre pour la deuxième et troisième place.
Avec les deux autres dont je t'ai parlé. Donc.
Voilà. Très bien. Donc je vois ça et je regarde aussi d'entrée ce que Laurent Blanc fait. Ben il a quand même il n'y avait pas besoin là de se transformer en Sherlock Holmes pour comprendre qu'il y avait une anomalie avec Mendes et dans une défense à quatre avoir Mal Augusto très moyen sur le plan défensif, avec un duo Mendes-Mal Augusto, ben, il fallait quand même rectifier ça et se servir des qualités de ces deux joueurs-là, et notamment des qualités offensives de Mal Augusto. Et ensuite, voir sur un terrain de football des footballeurs comme Reine Adélaïde ou Aouar, eh ben, ça sent gros comme une maison d'un entraîneur qui a envie de voir son équipe techniquement bien jouer, de faire de Toko Ekambi un joker qui peut être un joker redoutable. À partir de la 60e minute, ben, c'est pas une invention pour moi, c'est presque une évidence. Donc, ensuite, qu'il puisse y avoir les 4 ou 5 changements faits avec intelligence dans certains secteurs, maintenant, il y aura aussi un problème qui va être pour le prochain match, mais bon, ça arrive à tout moment. Tu as Diomandé qui a été expulsé, tu as Boateng qui a son procès dans la tête, et c'est pas si simple que ça à avaler et à digérer. Et donc, pour jouer avec trois arrières centraux, faut-il encore les avoir, mais comme Mendes a pu dépanner au poste d'arrière central depuis des semaines et des mois, ben, qu'il puisse reculer pour le match à venir et être dans un des trois arrières centraux d'une organisation à trois arrières centraux, ça ne m'étonnerait pas du tout.
Donc pour toi, le principal fait, enfin pour l'instant, le principal apport de Laurent Blanc, c'est ce changement tactique en fait. C'est remettre de l'ordre en fait sur le terrain quoi, en quelque sorte.
Les deux.
Il a fait du pragmatisme.
Et quand par exemple tu as la chance d'avoir un garçon comme Aouar, tu débarques à Lyon, tu dois faire tes traditionnels tête-à-tête, et c'est sûr que le tête-à-tête avec Aouar doit être un tête-à-tête que tu dois faire avec curiosité et impatience pour arriver à discuter avec lui et d'essayer de le remettre en selle, non pas dans un rôle de numéro 10 ou 9,5 comme on a pu le voir ces dernières années, et pas seulement avec Peter Bosz, mais un 8 côté gauche, capable de rentrer vers l'intérieur, de pouvoir faire des passes, de pouvoir de temps en temps marquer un but, et voir avoir un des 15 joueurs avec lesquels les entraîneurs d'aujourd'hui, dans cette époque-là, où il y a 5 changements, ben, qu'avoir soit dans les 15 joueurs de Lyon, c'est le contraire qui serait pour moi une anomalie.
Alors, jusqu'à ce stade de la discussion là, sur la tactique, Edouard, t'es d'accord ?
Oui, oui, en fait, il a fait du pragmatisme là où Peter Bosz avait son idée de plan de jeu et il a essayé avec les joueurs qu'il n'avait pas forcément bien en main, mais il n'avait pas forcément les profils pour faire ce jeu-là, mais il s'est entêté sur son jeu avec notamment Thiago Mendes derrière. Là, on fait du pragmatisme. On a deux grands attaquants, Dembélé et Lacazette. On essaye de faire en sorte qu'ils jouent ensemble. Derrière, il faut mettre de l'expérience. On met Boateng, quoi qu'il ait dans les jambes, quoi qu'il ait dans la tête. Donc là, on fait du pragmatisme. Et en fait, Laurent Blanc, le diagnostic quand il arrive, il voit déjà deux saisons en une avec le fait de cette coupure internationale qui va pouvoir lui faire faire vraiment la vraie saison à partir du 28 décembre au niveau du championnat. Donc ça, c'est pour l'après. Ensuite, il y a l'urgence de ces 5 matchs qu'il avait là avant le 11 novembre face à Nice. Et là, il y a deux problèmes. Il y a les têtes à nettoyer et il y a le physique à refaire. Parce que par exemple, son première sensation, c'est de voir sur des petits taureaux d'échauffement, peut-être des joueurs déjà qui tiraient la langue juste là-dessus, quoi. En fait, il a été effaré de cet aspect-là. Du coup, le physique, c'est assez long à remettre. Alors, il joue avec certains sur une heure et il a beaucoup lavé les têtes. Et notamment, l'une des têtes, c'est Alexandre Lacazette. Il lui a dit, arrête de porter cette croix, de tout vouloir tout seul, tout porter dans ce club, etc. Le général Lacazette, comme il y avait eu toute la communication, pense à toi. Pense au but, soit dans la surface de réparation, marque des buts, et après ça viendra. Et le symbole, c'est qui ? c'est lui qui marque le but vendredi soir. Donc il y a eu tout ce lavage de tête, mais dans le bon sens de terme, hein, quand je dis lavage de tête, nettoyer les têtes.
Après, la Lacazette, excusez-moi, il s'est mis la pression tout seul avec ses déclats sur boss. C'est-à-dire que quand tu arrives, tu sors du terrain.
Oui, alors ça sur la dernière partie, mais
du coup, il s'est, tu vois, bon, c'était aussi une... enfin, il fallait qu'il assume.
Là, c'est sur les 15 derniers jours qu'en fait.
Il y a quand même un truc, puisque bon, j'ai le plaisir d'avoir bien connu, que ce soit Laurent Blanc ou que ce soit Franck Passy, ce sont quand même des garçons sérieux, professionnels, discrets, et voir les déclarations en ce qui concerne le physique des joueurs qui récupèrent après notre entraîneur, je suis quand même assez surpris. Déjà, qui a un problème de condition physique. Et donc, on ne sait pas
si c'est un problème. D'autant, comme tu dis, il n'y a pas de Coupe d'Europe.
Mais ma foi. Et donc, ça voudrait dire que sur l'entraîneur d'avant, qui s'appelle donc Peter Bosz, qu'on connaît bien, et moi aussi, ben, qu'on soit en train donc de constater que les joueurs de Lyon ne sont pas en condition physique, permets-moi d'être surpris doublement.
Ah oui, bien sûr.
Premièrement, qu'ils ne le soient pas, et deuxièmement, que ça se dise.
Oui, c'est vrai.
C'est deux méthodes différentes. On en a parlé de cette préparation intégrée, hein, coach Gilbert. On en a même fait un podcast un jour sur cette préparation à la néerlandaise, avec ce jour à J-3 qui était repos. Le problème, c'est que même avec Peter Blanc, Laurent Peter Blanc, il y a quand même un jour qui est
Peter
un peu off
aussi,
hein. Il y a Peter Pan. Il y a un jour qui est plus ou moins off à la carte à deux jours du match. Avec Peter Bosz, c'était trois jours avant. Donc voilà, c'est deux méthodes qui sont différentes avec cette fameuse préparation intégrée. La seule différence que je vois, moi, c'est un petit peu comme Rudy Garcia quand il avait pris la suite de Silvinho. Silvinho, il y avait aussi visiblement un problème de préparation physique, parce que Silvinho, comme un petit peu Peter Bosz, coach, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais travaillait sur des petits espaces. Alors que là, Laurent Blanc, par exemple, lui, il privilégie des oppositions sur le grand terrain. Et je me rappelle que Rudy Garcia le disait aussi à propos de Silvinho. Maintenant, il faut qu'on les remette en physique pour faire des oppositions, faire des actions sur le grand terrain. Ce qu'on faisait peut-être moins sous Peter Bosz. C'est deux, écoles différentes.
Cette précision que tu nous donnes et que je ne connaissais pas, évidemment, pour moi, il n'y a pas photo de s'entraîner.
Faut travailler sur les grands terrains.
Pas la veille du match. Mais dans ce problème de jour J-3, et que tu puisses faire une opposition sur grand terrain, c'est une évidence pour moi.
Alors, il y a quand même encore deux choses à aborder là, les gars, parce que bon, une défaite, une victoire, très bien, deux matchs. Pour l'instant, on est encore un peu dans la découverte, hein. Voilà, c'est comme les histoires de couple.
Très malade, hein.
Au début, voilà, tout le monde est content, tu es content de te retrouver.
Dire, là, c'est les fiançailles là.
Voilà. Ouais, sauf que là, il y a Lille, Marseille, Nice qui arrivent. Donc, attention.
De rencontrer Lyon, c'est pas facile pour ces trois équipes-là. Il faut l'apprendre comme ça. Si chaque fois
Lille en pleine bourre, l'OM à Marseille.
Que Lille est en pleine bourre, l'OM à Marseille.
Nice, ils sont moins bien en l'occurrence.
Écoute, ces trois équipes, tu vas leur poser la question. Et c'est ce que Laurent Blanc dira à ses joueurs. Est-ce qu'ils sont contents d'affronter Lyon avec l'effectif de Lyon et les 15 meilleurs joueurs de l'effectif de Lyon? Eh bien, c'est pas un cadeau de les rencontrer et de battre cette équipe de Lyon. Pour moi, pour les équipes de Ligue 1, j'ai même vu, avant que Peter Bosz soit changé, le Paris Saint-Germain avoir des difficultés pour battre Lyon. Que l'on puisse avoir des difficultés pour battre Lyon, c'est le contraire qui m'étonnerait.
Édouard, que se passe-t-il avec Tété ?
Ben voilà, ça va être au-delà de, tu parlais des matchs, etc. Moi, après cette peut-être période de fiançailles qui, pour l'instant, ça se passe plutôt bien, parce que c'est vrai que c'était une défaite encourageante à Rennes, et puis un match réussi avec ce déclic de fin de match. J'attire l'attention quand même, hein, coach, Montpellier était très malade, hein, Lyon était malade, et c'était une équipe qui était très très malade. Le problème, c'est l'après. Comment gérer, parce que pour l'instant, un Kaltoko Ekambi qui est sur le banc alors qu'il était tout le temps titulaire, bon, il a peut-être la tête à la Coupe du Monde. Donc il va peut-être pour l'instant se contenter de ça, mais quand il revient au mois de décembre, janvier, est toujours sur le banc, ça risque de poser un problème. Tété, qui était le meilleur joueur, en tout cas le meilleur buteur.
Non, puis il n'a pas démérité, Tété.
Il n'a pas démérité. Ouais, autant il y avait peut-être des questionnements sur Kaltoko Ekambi.
Si je peux vous reprendre, et souvent, je suis obligé de reprendre ça, j'en suis désolé, mais Tété, c'est pas parce qu'il rétrograde un peu et qu'il ne démarre pas les matchs et qu'il fait partie avec Toko Ekambi des joueurs très importants à partir de la 60e. À partir de la 60e, dans un match de football, quelle que soit l'époque, tu vas t'occuper du tir qui est le tir décisif d'un match. Et que Tété soit un des joueurs redoutables pour entrer avec un peu de fraîcheur contre des adversaires qui auront fait des efforts pendant une heure. Lui est Toko Ekambi, mais quand tu vois que tu as la possibilité d'avoir dans cette époque où il y a 5 changements, ben, la possibilité de faire rentrer ces deux joueurs-là, entre autres, hein, il y en a d'autres aussi, ben, ça te démontre l'effectif que doit avoir Lyon. Et s'ils sont pas contents, ces joueurs-là, eh ben, le mois prochain, c'est le mercato, ils dégagent.
Très bien, on va se conclure. On va conclure sur ce là-dessus parce que finalement, ça peut effectivement être comme ça que ça se terminera le concernant.
Ben, peut-être qu'on s'apercevra que d'avoir ce qu'on appelle les jokers qui ne démarrent pas les matchs, que j'appelais moi les titulaires de la deuxième partie du match.
Toi, tu seras titulaire à la 60e.
Eh ben,
ah bon ?
Si tu as 5 fromages sur le banc, c'est sûr que tu peux faire des changements. Si quand tu fais les changements, eh ben, ton équipe elle baisse de niveau, bah c'est sûr que là il y aura un problème. Mais ce problème-là, il n'est pas à Lyon pour moi. L'effectif de Lyon et le banc de Lyon, quelle que soit l'équipe qui démarre, mais ça fait peur à tous les adversaires.
Mot de la fin, Edouard.
La seule question, c'est à l'avenir pour les supporters lyonnais, quid des jeunes lyonnais en dehors de Luc Eva?
Ah oui, on veut des jeunes à Lyon, c'est toujours comme ça.
Et là, ça peut faire l'objet d'un futur débat et d'un futur podcast, cher Gilbert, les Cherkis, les Le Penant et autres.
Et nos amis lyonnais.
Le Blanc a été clair quand il est arrivé, il a dit 18-20 ans, c'est jeune, c'est trop jeune pour jouer. Et puis il a calmé tout le monde.
Les actes suivent les paroles.
Oui, et puis nos amis lyonnais qui sont très contents de voir que le centre de formation de Lyon a formé certains jeunes. Si des fois il y a un jeune qui a été formé à Dunkerque ou à Mulhouse ou à Brest, eh ben t'inquiète pas, il sera le bienvenu à Lyon.
À Mulhouse depuis Ali Bouafé, il n'y en a plus.
Eh ben oui, c'est vrai.
C'est passé par Lyon d'ailleurs.
C'est quand même Oussem Aouar, Alexandre Lacazette, le deuxième sur une passe décisive de Maxence Cacré. Donc là, on peut dire que c'est du match.
Voilà, c'est du Lyonnais, voilà.
Et voilà.
Donc merci Edouard. Merci Edouard, merci coach.
C'est vrai qu'il y a une grosse différence entre un but marqué avec deux joueurs lyonnais et deux joueurs qui ne sont pas lyonnais.
À Lyon, il fait plus plaisir.
Ah ouais, c'est comme ça.
Il fait plus plaisir.
C'est comme ça.
Il compte pas double, mais il fait plus plaisir.
Ben écoute, c'est vrai, j'y avais pas pensé.
Merci les gars, à la semaine prochaine pour un prochain podcast After Lyon, bien sûr. Bye bye.
RMC After Lyon.